Radio Zone 61, la radio des lycéens.
Radio Zone 61.
Radio Zone 61, la radio des lycéens.
Maintenant, nous nous retrouvons avec nos sportifs en herbe, Amadou, Timéo et Gaspard. Et dédicace à Gaïdan, qui nous écoute dans son camion. Nous nous retrouvons donc dans l'équipe 61.
L'équipe 61, l'émission sport des Flériens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'équipe 61. Il y a quelques semaines, nous avons eu l'honneur de recevoir Guillaume Dufy, journaliste à l'équipe 21. Il ne pourra pas être présent aujourd'hui car il est dans le sud pour couvrir la dernière journée de Top 14. Nous avons proposé donc d'écouter son interview.
Je m'appelle Guillaume Dufy, j'ai 50 ans, je suis né à Flers, juste à côté, hein, à l'hôpital. Et aujourd'hui, je suis grand reporter à l'équipe, je suis journaliste à l'équipe depuis 23-24 ans. Voilà. Donc j'écris dans le journal, ça c'est 99% de mon activité. Et 1%, je passe à la télé, je suis chroniqueur à l'équipe du soir. Voilà. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'écris exclusivement sur le rugby. Et à la télé, je parle quasiment exclusivement de foot. Je pense que vous regardez de temps en temps l'équipe du soir ou les émissions de la chaîne L'Équipe et vous voyez bien que le sport numéro un, loin devant tous les autres, c'est le foot. Oui. Est-ce que la présentation vous suffit ou vous voulez que je développe plus?
Non, parfait. Alors,
quand avez-vous su que vous vouliez faire journaliste sportif?
Quand est-ce que j'ai su? Je crois que j'étais en troisième. Donc j'étais dans un collège de Flers. J'étais à l'Immaculée Conception. Je crois que ça a changé de nom depuis. Saint-Thomas d'Aquin maintenant, voilà. Bon, je suis passionné de sport, de tous les sports depuis très longtemps. Et je joue au tennis avec un garçon qui s'appelle Eric Salio, qui est plus âgé que moi et qui lui le week-end était correspondant sportif. Donc correspondant sportif, c'est quoi? C'est jeunes hommes, jeunes femmes ou plus âgés qui le week-end pourra mettre un peu d'argent sur leur compte, n'étant pas professionnel, mais écrivent des articles. Donc là, c'était pour Ouest France. Donc ce garçon, tous les week-ends, il avait 18 ans, il était un peu plus âgé que moi, allait sur les terrains de Flers et de sa région pour écrire des papiers pour Ouest France, de foot, de basket, de tennis, de hand, de tir à l'arc. Donc ça me plaisait bien de le voir gambader autour des terrains avec son petit carnet, prendre des notes et puis son appareil photo et puis à la fin du match aller voir les entraîneurs ou quelques joueurs et poser des questions. Je me dis c'est top. Et puis un jour il s'est retrouvé sur un match de gala, le club de Tingebray, d'où je suis originaire, fêtait, je ne sais plus, ses 10 ans et avait organisé un match de gala entre Orléans et Abbeville. Et les journaux locaux de ces deux villes ont sollicité Ouest France pour leur demander, parce que c'était des matchs de début de saison, de préparation, s'il était possible d'avoir un journaliste qui leur écrive un papier pour la presse locale d'Abbeville et un papier pour la presse locale d'Orléans. Et donc Eric Salio, qui était tout seul, qui aussi devait écrire pour Ouest France, ça c'est après, m'a dit toi tu viens souvent avec moi, viens, tu vas me filer un coup de main. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire, j'ai envoyé mon papier par fax, qui n'était pas parfait, hein, loin d'être parfait. Et puis ça m'a plu, et puis lui a dit mais c'est super, t'es motivé, je vais aller voir le journaliste de la rubrique de la locale de Flers et on va essayer de créer une rubrique. On a créé une rubrique sur le sport scolaire. Ça s'appelait Sport Potache. Et donc toutes les semaines, j'écrivais sur les résultats UNSS, c'est les écoles publiques, je crois, et sur les résultats UXL, c'est le sport scolaire des écoles privées. Et donc j'ai fait ça à 16 ans, 17 ans, jusqu'en terminale. Et quand j'ai été majeur, là je suis vraiment devenu correspondant sportif et j'ai remplacé Eric Salio comme correspondant sportif à la locale de Flers, parce que lui est parti étudier à Paris. Et ce garçon, je vais le suivre parce qu'après, il est devenu journaliste à France Soir. Et quand moi, j'ai fini mes études à Caen, je l'ai appelé en lui disant « Écoute, je viens à Paris pour poursuivre mes études, pour faire une école de journaliste, parce que tu peux me prendre en stage à France Soir ou te débrouiller pour que le chef des sports de France Soir, qui était un grand journal à l'époque, qui a malheureusement disparu, me prenne en stage. » Et puis, c'était en 96, il m'a pris en stage à Paris. Et puis, ma vie, j'ai eu une opportunité dans ma carrière ou deux, et je les ai saisies, je les ai pas ratées. C'est comme, je sais pas, si vous faites un sport collectif, vous êtes remplaçant tout le temps, et un jour, le titulaire, il est malade, il est absent, il est blessé, il est, je sais pas, un mariage ou une communion, et vous avez cette chance de jouer, et puis vous brillez, vous marquez des buts, et puis, c'est parti, quoi. Et moi, c'est un peu comme ça. J'ai eu, une espèce de coup de foudre en allant voir des matchs de division d'honneur autour de Flair, des choses comme ça. Et je suis tombé amoureux de cette profession. Et puis ça fait quasiment 30 ans que je suis là-dedans. Et quand je vous en parle de ces débuts, j'ai encore des frissons parce que 30 ans après, j'ai cette même passion. Je vais encore au boulot en courant. J'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie. Donc j'ai un peu débordé. J'ai pas vraiment répondu à la question, mais c'est à 15 ans que que je suis tombé amoureux. Un coup de foudre. C'était passionné. La passion, parfois, ça dure.
Et en parlant de vos études à Caen, quelles études avez-vous fait pour parvenir jusqu'à...
Alors là, je suis pas vraiment un exemple parce que j'ai surtout beaucoup passé de temps dans les bistrots. Mais ça fait partie de ma construction. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai beaucoup parlé, j'ai refait le monde des milliards de fois sur le foot, sur la politique, sur la musique. Donc j'ai fait des études d'histoire en parallèle de mes heures passées dans les bistrots qui jouxtent l'université de Caen. J'ai fait 5 ans d'histoire, j'ai mis un temps fou à voir mon DUG. À l'époque, il y avait un DUG, j'ai mis 4 ans. Après la licence, je l'ai pas eu dans sa globalité, mais je travaillais tous les jours pour Est-France, j'écrivais tous les jours pour Est-France, vraiment tous les jours, j'écrivais, j'appelais, je faisais des interviews de joueurs, d'entraîneurs, donc je glandais un peu à la fac, mais je ne chômais pas, Et après, comme je savais vraiment que je voulais être journaliste, et que pour moi, le journalisme sportif, celui que je voulais embrasser, épouser, c'était Paris. Je n'ai tenté qu'une école de journalisme, pas la plus dure. Un concours plutôt facile, c'est une école privée. L'ESJ à Paris. L'ESJ que Eric Salio, mon mentor, entre guillemets, avait aussi intégré. Et je suis arrivé en 96 à Paris. Mais j'ai pas été au bout de cette école parce que grâce au stage de France Soir, je passais aussi beaucoup de temps à France Soir. Et à un moment, le directeur de l'école m'a dit « Monsieur Dufy, je sais que vous êtes très pris par vos activités journalistiques et par France Soir. Si vous continuez, vous n'allez pas pouvoir passer vos examens. » Et après, l'histoire a fait que j'ai été plus ou moins viré. Mais en même temps, France Soir m'a proposé un contrat. Donc je suis pas forcément un bon exemple parce que je suis pas allé au bout de mes études. J'ai eu quelques frictions ou tensions avec mes parents qui auraient préféré que je suive un cursus un peu plus linéaire. Mais c'est apprendre sur le tas. C'est aussi pour moi une formation exceptionnelle. Je vais pas dire que ça vaut tous les cours enseignés par les profs, parce que j'ai pas envie de me fâcher avec le corps enseignant, mais ce qu'on fait à l'extérieur, ça compte aussi beaucoup, et même les rencontres que vous faites dans les bistrots,
Et avez-vous travaillé à part à France Soir dans d'autres médias avant l'équipe?
Alors j'ai travaillé comme je vous ai dit à Ouest France comme correspondant sportif, ensuite France Soir, et après France Soir j'ai rejoint l'équipe. J'ai aussi collaboré pas mal avec RTL, j'ai fait aussi des émissions de radio, et avec Europe 1, et je fais aussi j'ai fait un peu de télé, et je fais encore un peu de télé, donc j'ai touché vraiment à tous les médias possibles et imaginables.
Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier?
La curiosité, La curiosité. Ouais, être curieux, très curieux. Ouais, je pense que c'est la qualité principale. Alors après, je sais pas, est-ce que vous me parlez du journalisme sportif ou du journalisme en général ?
Journalisme sportif.
Faut être malade mental de sport. Ce qui est mon cas, de tous les sports. Alors j'avais une préférence pour le foot, mais après je me suis ouvert et aujourd'hui je m'intéresse à beaucoup de disciplines. Il faut être curieux, il faut lire beaucoup, énormément lire, écouter la radio, regarder la télé, mais aussi lire. Voilà, la lecture c'est capital. Là, je vais me réconcilier avec le corps enseignant, je pense. Lire les journaux, lire des romans, écrire, ne pas avoir peur, oser. Travailler aussi énormément vos langues. Être bilingue ou trilingue, si vous voulez. Devenir journaliste, ça aide quand même sur un CV. Si, je sais pas, demain, tu dois être en conférence de presse au PSG et que tu parles couramment espagnol, je pense que le contact avec Luis Enrique peut être meilleur qu'en passant par une interprète. Donc, travailler vos langues. Moi, j'ai pas fait ça vraiment. Je le regrette d'ailleurs. J'ai 3 enfants, j'essaie de les bousculer et de leur expliquer l'importance des langues aujourd'hui dans quelques disciplines qu'elles soient. Je trouve qu'il faut il faut passer du temps à apprendre les langues. Là, par exemple, j'ai suivi la Coupe du Monde de rugby, je me suis occupé des Anglais, donc je lis l'anglais, mais j'avais du mal. Je trouve qu'en France, la manière dont on apprend les langues n'est pas forcément exceptionnelle. Donc j'avais un problème d'oreille, de compréhension. Donc j'ai repris les cours, mais réapprendre un peu une langue à 50 ans, c'est pas facile. Je m'en suis pas trop mal débrouillé, je pense. Mais voilà. Ouais, il faut être. Mais ouais, je dirais curieux. Vraiment curieux et aimer la vérité, parce que moi mon métier c'est pas uniquement causer dans le poste et analyser une rencontre ou la prestation de Kylian Mbappé, savoir s'il a été bon ou pas bon contre Dortmund. C'est aussi c'est aussi essayer de chercher la vérité. Voilà, parce que je fais aussi pas mal d'investigations, de recherches sur des sujets délicats comme le dopage, la mafia dans le sport, les agressions sexuelles. Voilà, c'est un vrai métier. Essayer de fouiller, de gratter, de découvrir ce que les autorités, les institutions nous cachent. Et c'est ce que je préfère dans mon métier aujourd'hui. Mais il faut être curieux, ne pas avoir peur, se débarrasser vite de ses feuilles, préparer l'interview et oser se lancer. C'est bien de préparer, mais voilà, là, par exemple, je vous vois avec vos feuilles, vous devriez les mettre en boule, les jeter, et on devrait avoir une discussion à bâton rompu. Voilà. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de poser des questions. Il faut curieux, courageux, être un peu fou aussi, je pense. Voilà.
Quels sont les avantages et inconvénients du métier ?
Comme je vous ai dit en préambule, moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie. Donc ça, c'est un avantage quand même non négligeable. Moi, je suis passionné de sport, donc ça m'a permis de voir des matchs de dingue, de rencontrer et de croiser des sportifs exceptionnels, de voir Zidane jouer, de voir Michael Jordan jouer, de voir Federer jouer, de voir Tiger Woods jouer, en vrai quoi, un mètre comme vous me parlez là, voilà, presque de les toucher. Donc quand tu choisis des journalistes sportifs, t'as un côté un peu fan au départ. Après, il faut s'en débarrasser parce qu'il faut essayer d'être l'objectivité dans le journalisme, pour moi, ça n'existe pas, mais d'essayer d'être le plus détaché possible. Après, les inconvénients, c'est dur d'avoir une vie de famille, parce que quand vous allez suivre une Coupe du Monde de rugby ou de foot, vous partez un mois et demi, vous n'avez pas d'horaire, vous avez beaucoup de jours de repos, mais vous avez du mal à les prendre. On voyage beaucoup. Après, si vous voulez être très riche, très très riche, si l'argent est votre moteur, ne choisissez pas ce métier. Je suis pas malheureux, hein, mais c'est pas le métier le plus dingue. Si tu veux t'acheter une maison secondaire et puis peut-être un chalet en montagne ou un deuxième, fais pas ce métier-là. C'est vrai un vrai métier de passion.
Okay. Quel est le quotidien d'un journaliste sportif?
Le quotidien d'un journaliste sportif, c'est de pas avoir de quotidien. Normalement, la première chose qu'un journaliste fait quand il se lève, quand il commence à travailler, c'est de lire, de faire une revue de presse, de lire la presse quotidienne, la presse régionale. Donc ici, on est en Normandie, donc Ouest-France, ou même l'Orne combattante, d'écouter la radio, d'être curieux, ouais, de lire, d'écouter la radio pour ne rien avoir raté. Et voilà. Ensuite, par exemple, moi aujourd'hui je suis à la rubrique rugby, je suis plusieurs équipes, c'est de passer des coups de fil pour avoir des renseignements sur l'entraînement de la veille, sur l'état de santé des joueurs, sur le recrutement, sur une équipe a perdu 4 matchs d'affilée, savoir si le staff technique est en danger, s'il y a une possibilité de changement de technicien, d'entraîneur. Voilà, mon outil de travail, je vous le sors, voilà, c'est de la radio, mais c'est mon téléphone. Voilà, j'ai 2000 contacts, c'est de passer sa vie au téléphone, le quotidien d'un journaliste. C'est téléphoner pour avoir des infos, pour organiser des rencontres, des déjeuners, à la recherche de l'info. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier, alors, je vous ai parlé de ma passion pour le sport, d'aller voir des rencontres, mais c'est d'avoir des infos. Ça, c'est hyper jouissif, et je fais ce métier pour ça. Donc, pour avoir des infos, il faut passer des coups de téléphone. Beaucoup d'appels, beaucoup de temps au téléphone. Et ça plaît pas forcément à la famille qui vit autour, parce que t'es à table, le téléphone sonne, tu dis c'est urgent, je dois répondre. Hein. Mais voilà, c'est le quotidien. Voilà, c'est travailler, c'est lire, c'est encore une fois être curieux, et c'est téléphoner et essayer de rechercher des informations.
Quel est votre sport préféré et pourquoi?
Sport préféré. J'ai beaucoup écrit sur le foot. J'ai écrit pendant 15-20 ans sur le foot. Donc, je dirais le foot. Je suis pas très original, mais le foot, là, on a. Je sais pas si vous avez le droit de jouer au foot dans la cour, non? C'est peut-être révolu ce temps-là, mais s'il y avait un ballon, on poserait 4 sacs et on jouerait. Quand je suis à la plage, je joue avec mon fils, avec des potes de mon fils, avec des potes. Voilà, le foot. Voilà, j'adore ce sport. Après, je suis passionné par beaucoup de disciplines. J'adore le rugby parce que c'est aujourd'hui le sport que je couvre. J'adore le golf. J'y joue. Je couvre aussi un peu de golf, le basket. Mais j'ai quand même une relation très particulière avec le foot parce que j'y ai joué aussi ici dans le coin. J'ai joué à Saint-Georges des Groseilliers pendant très longtemps et après j'ai joué à FC Flair. Donc et tous les lundis, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir le journal pour voir ce qu'a fait le FC Flair. Voilà, je suis l'actualité de Flair.
Quel est votre sportif préféré?
Mon sportif préféré aujourd'hui, j'ai jamais été vraiment fan. Je dirais Tiger Woods.
Et votre footballeur préféré?
Mon footballeur préféré. C'est compliqué. J'ai adoré. Je sais pas, vous étiez pas né peut-être quand il jouait. Redondo, c'était un milieu de terrain argentin. Vous regarderez parce que je te vois faire des gros yeux. Tu regarderas sur YouTube en rentrant chez toi les highlights. C'était un milieu de terrain argentin hyper élégant qui avait un peu les cheveux longs comme moi, qui avait un port très altier, qui jouait de manière très simple. J'aime beaucoup ce garçon. J'aime beaucoup les milieux de terrain. Même si j'ai été longtemps gardien, j'aime beaucoup les milieux de terrain. J'aime beaucoup Toni Kroos aussi. J'aime beaucoup Modric. Des types qui font vivre le ballon avant d'être, qui le font hyper bien vivre. Ouais, mais Redondo, regardez. Si on se revoit un jour, tu me diras ce que t'en penses.
Qu'avez-vous ressenti lors du sacre de champion du monde en 2018?
J'étais en Russie, donc j'étais à Moscou, Alors c'était un peu particulier parce que là je ne l'ai pas couvert pour le journal, je l'ai couvert pour la télé. Et comme la chaîne L'Équipe n'avait pas les droits, on avait accès uniquement au camp d'entraînement des Bleus et pas aux conférences de presse qui se déroulaient dans les stades où la zone mixte, c'est là, c'est l'endroit où passent les joueurs à la fin d'un match pour livrer leur impression. J'avais pas non plus de place en tribune de presse, mais la télé, la chaîne achetait des places pour qu'on puisse assister aux rencontres. Donc on était au milieu du public et c'était assez dingue à vivre parce que j'ai été emporté par l'atmosphère, l'ambiance, et j'étais à la fois journaliste mais aussi supporter, et je pense que j'ai dû fondre en larmes parce que c'est assez dingue de vivre ça dans la tribune, au milieu des fans, au milieu des supporters. Normalement, quand je suis en tribune de presse, je me tiens plutôt sagement et je ne hurle pas de joie. C'était la deuxième fois que je voyais les Bleus gagner, parce qu'en 98, vous n'étiez pas né non plus, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Là, j'étais vraiment en tribune de presse, j'étais jeune journaliste à France Soir. Là, c'était la deuxième victoire des Bleus. Ouais, je l'ai vécu un peu différemment. J'étais vraiment, je crois que j'étais en larmes. J'étais même en larmes. La fin d'une Coupe du Monde, c'est la fin d'une longue période. J'étais parti depuis un mois et demi. C'est long, loin de ma famille. Et puis, quand on est en reportage très loin comme ça, on est une cinquantaine ou une centaine de journalistes français. Ça ressemble un peu à une colonie de vacances aussi. On s'entend tous très bien. Donc la journée, on travaille et le soir, on décompresse. On sort beaucoup. Vous connaissez ma passion pour les bistrots, donc à Moscou il y en a aussi, ou en Russie, et donc on sortait le soir. Donc il y avait la fatigue également. Donc la joie, l'émotion de voir l'équipe de France gagner, plus la fatigue. Ouais, j'ai vécu un moment de dingue.
Et en 2022, malgré que vous couvriez maintenant le rugby, est-ce que vous trouviez à la finale?
Non, j'étais... décidément, vous avez trouvé que je fais une fixette là-dessus. J'étais dans un bistrot à Quiberon avec mes potes. Je suis désolé. Hein. mais ça fait partie du sport, hein, et de l'environnement. Après un match, avec ses potes, on se retrouve dans un café avant d'aller voir un match. Et après, on se retrouve aussi parfois au café pour débriefer et refaire le match. J'étais pas au Qatar. J'étais pas au Qatar.
Et pensez-vous que c'était une des plus belles finales de Coupe du Monde ?
Le scénario était dingue, mais le niveau de jeu n'était pas exceptionnel. L'équipe de France a été pathétique pendant la quasi-totalité de la rencontre, étant dans l'incapacité d'aligner trois passes. Donc à ce niveau, c'est pas rédhibitoire, mais presque. Après, effectivement, t'as un renversement de situation exceptionnel, un scénario de dingue, du suspense, donc... Oui, tu peux peut-être dire que c'est la plus belle, et ça te procure des émotions uniques. Et j'ai l'impression que le sport est peut-être le parce que j'ai envie d'élever le sport au rang d'art, qui te procure de telles émotions différentes en très peu de temps. À la 15e minute, t'as envie de tout casser, de pleurer et d'éteindre la télévision. Et une heure après, c'est l'extase totale si t'es supporter français. Donc pas la plus belle techniquement, mais en termes d'émotion, je dirais oui.
Et pourquoi avez-vous changé pour le rugby?
Moi, je trouve que c'est hyper important intellectuellement de changer, de se mettre en danger. Donc, j'ai fait du foot pendant très longtemps. En 2014, j'ai rejoint la télé pour créer une émission d'enquête et d'investigation qui s'appelle L'Équipe Enquête, avec Sébastien Tarrago, le rédacteur en chef, qui est d'ailleurs encore aux manettes de cette émission. Émission qu'on a même fini par présenter. C'était pas notre deal du départ, mais on a fini par la présenter. Après, en 2018, je suis retourné au journal pour faire de l'enquête et de l'investigation en traitant des sujets obscurs qui touchent le sport, hein, l'argent sale, la mafia, les agressions sexuelles dans le sport, où enfin la parole se libère, le dopage également. Et en 2022, la rubrique rugby savait que j'aimais le rugby. J'ai un fils qui joue aussi à un très bon niveau de rugby en région parisienne. Donc je me suis dit, allons-y, mettons-nous à nouveau en danger. Parce que au départ, dans ce téléphone, j'avais 1500 contacts de foot, zéro de rugby. Donc il a fallu que je me batte et que je recommence un peu comme à zéro, que j'aille me faire connaître, que je récupère des numéros de téléphone, que je gagne la confiance de mes interlocuteurs, de mes sources, entre guillemets. Et je ne dis pas que le rugby, aujourd'hui, sera la dernière rubrique à l'équipe. J'ai envie de faire autre chose. Je couvre des gros tournois de rugby, de golf, mais j'ai envie de recouvrir Roland-Garros, de suivre le Tour de France, de faire un départ et une arrivée devant des globes à la voile. Ouais, j'aimerais si possible, avant de partir à la retraite, d'avoir quasiment touché à toutes les disciplines.
En parlant de Roland-Garros et le Tour de France qui vont bientôt commencer en avance parce qu'il y a les JO, est-ce que vous y serez pour couvrir ?
Non. Alors Roland-Garros, non. Le Tour de France, non. Les JO, je ne vais pas les couvrir non plus. C'est un choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Ma saison a déjà été très très longue avec la Coupe du Monde de rugby, avec la saison de rugby, la Coupe d'Europe, le tournoi destination. Il faut aussi souffler. On ne peut pas tout faire. Et fin juillet, je vais couvrir un des majeurs de golf, The Open en Écosse. Donc à un moment, il faut souffler, se poser et aller se faire bronzer à la plage. Voilà.
Quelle est la chose la plus compliquée que vous avez eu à gérer dans votre carrière ?
Quand tu travailles sur des sujets épineux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une pression de dingue, des menaces, des coups de pression. Ouais, le téléphone qui sonne à 7h du matin, des insultes. Ouais, c'est ça le plus compliqué, mais si vous avez ce genre de coup de téléphone, ça veut dire que vous avez fait correctement votre travail. Et le plus compliqué aussi, c'est d'obtenir des preuves. Parce que quand on bosse sur ces sujets délicats, la parole, c'est une chose, mais il faut aussi des preuves, des documents. Si vous voulez prouver qu'un dirigeant de club détourne de l'argent, vous ne pouvez pas vous contenter d'un témoignage d'un personnage. Il faut des comptes bancaires, il faut des choses comme ça. Donc c'est ça le plus compliqué. Obtenir la confiance de votre source pour récupérer ces documents et vous appuyer sur des choses concrètes pour rédiger vos papiers. Moi, je suis parfois comme un peu un policier quand j'enquête. J'essaye de rassembler un maximum de preuves et d'avoir des gens qui me parlent et qui me transmettre les documents qui pourront étayer mon propos et enrichir mon investigation. C'est ça le plus compliqué. Aller voir un match au Brésil avec 6h, 7h de décalage, très franchement, quand tu vois la plage Copacabana, ça c'est pas compliqué.
Et est-ce que ça vous a fait peur de recevoir des menaces?
Oui, parce que c'est jamais très agréable. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc j'ai reçu des menaces de mort, j'ai porté plainte. J'ai été aussi secoué physiquement parce que j'ai longtemps œuvré sur les clubs corses pour l'équipe. J'ai pris un coup de tête un jour par un. Mais ouais, c'est assez effrayant et aussi je vais pas dire excitant parce que c'est pas le mot adéquat, mais Ouais, il y a un peu d'adrénaline quand même. Après voilà, j'ai aussi, comme je te disais, bossé sur les clubs corses où il y a eu des gros problèmes de détournement de fonds, de liens avec des groupes terroristes en Corse. J'ai passé beaucoup de temps aussi avec des dirigeants qui étaient menacés, qui étaient sous protection policière. Ouais, c'est un peu lourd à gérer. Parfois on est un peu parano. Mais ça fait partie de ton métier, de mon métier. Et être journaliste sportif, ce n'est pas uniquement, encore une fois, donner son avis sur le match de Donnarumma contre Dortmund. Ça, c'est facile. Après, même si tu critiques un joueur, ça m'est arrivé de mettre, parce qu'à l'équipe, on met des notes, de mettre un 3 à un joueur, et à 7h du matin, le lendemain, le joueur qui t'appelle et qui est fou furieux parce qu'il pense qu'il ne méritait pas 3, mais 3,5 ou 4, ou parce que son agent te dit « Ah, c'est dégueulasse, tu connais rien au foot ». Mais ça, c'est pas très grave.
Quel conseil donneriez-vous pour un reportage sur les finales de l'UNSS, car nous sommes chargés de en créer un ?
Quel conseil Ça dépend quel sport vous allez suivre.
Le step et la natation.
Le step. Alors, donc le step est une discipline. Non, je le sais parce que mes filles ou mes enfants ont dû faire du step au lycée. J'étais comme un dingue en apprenant qu'ils faisaient ça plutôt que du hand ou de la natation ou de l'athlé. Le step, bon voilà, il faut que j'évolue avec mon temps. Hein, voilà, il faut évoluer. Mais j'ai mon avis sur la question malgré tout. Donc step et
natation.
Moi, je pense que... Alors, je ne sais pas, en presse écrite, en radio...
Radio.
Essayer d'être au plus proche du sportif, essayer de pas plonger avec lui, mais d'être avec lui dans les vestiaires, à quelques minutes de la course, de bien regarder comment il se prépare, d'essayer d'obtenir et d'être au plus proche de lui et de son coach pour les derniers conseils donnés. D'assister à sa dernière séance d'entraînement peut-être, parce qu'une course de natation, je sais pas, un 50 mètres c'est très rapide, un 100 mètres c'est très rapide, donc tu vas commenter peut-être la course. Ça, finalement, je vais pas dire que tout le monde en est capable, mais essayer de raconter ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il a bien dormi, pas bien dormi, est-ce qu'il a eu une nuit blanche, est-ce que l'athlète a vomi parce que stressé, voilà, essayer d'en savoir un maximum sur l'athlète, quel était son meilleur temps sur cette discipline, et puis de demander au coach si tu peux être dans les vestiaires 2 minutes avant pour regarder ce qui se passe, comment l'athlète se prépare, comment le coach le prépare. Essayer d'être au plus près de l'action, d'entendre l'athlète respirer, souffler, réfléchir, se concentrer, et essayer de transmettre ça à l'auditeur qui va t'écouter. Le step, je donnerai pas de conseil parce que je ne connais pas cette discipline. Et après, si t'avais eu à suivre par exemple une finale de foot, je vous aurais dit allez voir l'entraîneur et demandez si vous pouvez passer les dernières 24 heures avec l'équipe dans les vestiaires le matin au petit déjeuner, et puis de raconter ça, et parce que nous on fait ce métier de journalistes sportifs pour être au plus proche de l'action, au plus proche de l'acteur et du sportif. On fait ça pour vivre au plus près de cette action-là. Donc c'est à vous de vous débrouiller par n'importe quel moyen d'être au plus près.
Quel est le plus gros projet de votre carrière ?
Le projet à venir ou
ce que vous avez réalisé ?
Ouais, c'est compliqué quand même de dire. C'est difficile. Je suis assez fier de ce que j'ai fait. très franchement. C'est peut-être un peu présomptueux, mais je suis assez content de la trajectoire, du chemin que j'ai parcouru. J'ai commencé, j'avais 15 ans, j'ai 50 ans, ça fait 35 ans que je vibre et que je respire pour mon métier. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Et peut-être la plus grande fierté, c'est d'avoir touché à tout, d'avoir fait de la télé, d'avoir fait de la radio, d'avoir écrit, de continuer à écrire. J'ai aussi écrit un bouquin en 2016 sur le comportement des sportifs dans la vie de tous les jours et leur rapport à la loi. Je suis plutôt fier de tout ça, ouais, et de me mettre en danger, d'avoir fait du foot, d'avoir fait de l'enquête, de l'investigation, d'aujourd'hui être au rugby, d'être capable de d'écrire sur du golf, d'être capable d'interviewer une jeune femme de 35 ans qui, 20 ans après les faits, décide de porter plainte pour agression sexuelle contre son entraîneur. Je suis plutôt fier de tout ça, voilà, de l'ensemble de mon parcours. Voilà. Mais elle est pas terminée, hein. Je suis vieux, mais j'ai encore envie. J'ai encore envie. Voilà, comme un gosse, j'ai encore envie, comme vous. Voilà.
Et quel est le plus beau moment de votre carrière ?
Oh, j'ai vécu des trucs de dingue quand même. Vous n'étiez pas né encore, mais en 2000, j'ai eu la chance. De suivre une épopée, une aventure exceptionnelle vécue par les joueurs de Calais. C'est du foot, c'était en 2000, c'était une équipe de amateurs de National 3 ou National 2 qui a réussi à atteindre la finale de la Coupe de France. Et pendant j'étais à France Soir et pendant je sais pas un mois et demi, j'ai vécu à Calais et j'ai vécu avec eux. Je vais vous raconter tout à l'heure cette soif pour nous journalistes d'être au plus proche de l'action, d'être au cœur de l'action. Bah là on était avec eux tout le temps. On était avec eux, on était dans les vestiaires avec eux, au bord du terrain avec eux quand ils s'entraînaient, entre deux matchs de Coupe de France, on les suivait sur des matchs de championnat. On était au clubhouse avec eux quand ils fêtaient la victoire ou quand ils perdaient ou quand ils pleuraient. J'ai été invité à des mariages, à des anniversaires. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs parce que pendant un mois et demi, j'étais. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup dans notre profession, c'est être en immersion. Voilà, ben on s'est plongé dans la vie de ces mecs-là. J'étais pas tout seul parce que moi j'étais à François à l'époque, mais il y avait un mec du Parisien, il y avait un mec de la Voix du Nord, de l'équipe, et on a vécu avec eux. Ils nous ont ouvert les portes et c'était exceptionnel. De vivre ça. Après, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la Coupe du Monde 98, de celle de 2018, de la première fois que j'ai vu Tiger Woods pour de vrai. J'étais comme un gosse la fois où j'ai croisé aussi Michael Jordan à Paris quand il est venu avec les Bulls. C'était en 97, je crois. C'était lunaire, quoi. Michael Jordan, The GOAT, quoi, comme Woods, comme Federer, des gens qui étaient leur sport à une époque. C'était des souvenirs incroyables, inoubliables.
Notre émission touche à sa fin. Merci à Monsieur Dufy d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et j'espère que vous ferez un bon reportage sur les finales UNSS de natation et de step.
Merci. Merci encore à Monsieur Dufy de nous avoir accordé de son temps et surtout merci pour ses conseils. Nous allons essayer de les appliquer dans cette deuxième partie d'émission.
Nous allons maintenant vous proposer de mettre les conseils de Guillaume Dufy en pratique avec une chronique sur les championnats de France UNSS qui ont lieu fin mai. Nous accueillons pour cela Lila qui a participé au final de STEP et Madame Renaudin, une enseignante qui a accompagné les élèves à Périgueux pour le STEP et qui est ensuite descendue à 7 pour les finales de natation.
Bonjour à tous les deux. Pour commencer, Lila, peux-tu nous expliquer en quoi consiste le step, en quoi consiste le principe de ce sport ?
Alors le step, donc le but du step que nous on pratique en UNSS, c'est de créer une chorégraphie où l'objet principal c'est le step. Donc il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en compte et après il faut monter une chorégraphie de A à Z qui dure environ 1 minute 30. Et après, le but, c'est de la présenter en championnat.
Vous étiez combien d'élèves au lycée ?
Cette année, on était une équipe de 4.
Comment vous créez les chorégraphies ?
Alors, quand on était au collège, les chorégraphies, on a été beaucoup aidés par nos professeurs. Du coup, cette année, c'était la première année où on créait notre chorégraphie toute seule. Donc, on a pas mal récupéré des pas qu'on avait utilisés l'année dernière. Donc, c'est un désenchaînement de pas. Et après, on a calé des bras par-dessus, des mouvements de bras. Et on a mis de l'artistique dans la chorégraphie. Donc, c'est tout ce qui va être des éléments acrobatiques comme la roue, tous ces trucs-là.
Comment êtes-vous arrivé en finale et quelles ont été les différentes étapes ?
Alors, premièrement, il y a eu la compétition académique, donc c'était en mars. Et donc, on n'était que deux équipes en lycée. Il y avait donc notre lycée et le lycée d'Argentan. Donc, on a fini première. Donc, suite à ça, après, on est qualifié directement pour aller au championnat de France. Et voilà.
Lors des finales, combien d'équipes étaient en compétition ?
En finale ? C'était 5 équipes en finale, 6 parce qu'il y a eu une égalité, mais en tout, il y avait 10 équipes. Donc il n'y a eu que 6 équipes qualifiées en finale.
Vous avez fait quel résultat ?
On a fini 3e.
Comment gérez-vous le stress pour les finales ?
Bah, le stress, c'est vrai que c'est difficile de le gérer, surtout pendant la finale, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de beaucoup se rassurer entre nous. Donc moi je suis jeune coach de mon équipe, donc c'est vrai que c'est un rôle que je suis censée endosser plus particulièrement, même si bon, je peux être un peu être la plus stressée, mais voilà, donc on essaie de se rassurer un maximum, puis sinon c'est comme ça, il y a du bon stress pour la compétition.
Comment se passe le système de points ?
Alors en fait il y a plusieurs juges qui sont responsables d'une catégorie. Donc va y avoir l'artistique, va y avoir la technique des pas, la technique des bras, la synchronisation, composition espace. Et donc voilà, donc c'est tout un système de points comme ça. Et donc les juges attribuent des points par catégorie et à la fin les points ils sont additionnés.
Très bien, merci. Le mois de mai était chargé en compétition sportive puisque l'équipe des nageurs était aussi en finale UNSS, cette fois à 7. Alors nous n'avons pas d'élèves présents car ils sont en cours, mais Madame Renaudin, vous étiez avec eux à 7 je crois.
Oui, je les ai accompagnés. Avant je voulais quand même féliciter les steppeuses parce que faire un podium en finale nationale UNSS, c'est pas rien. Donc encore bravo les filles. Donc oui, j'ai accompagné les jeunes à 7.
Combien d'élèves ont participé à cette compétition ?
Il y avait 6 nageurs et un jeune officiel.
Et quelle est la catégorie pour en quoi y participer ?
Alors en fait, on n'a pas tellement le choix. Hein. Il y a plusieurs nages. Il y a un 200 palmes, il y a un 204 nages, il y a un 100 mètres d'eau, un 100 mètres brasse. Un 100 mètres nage libre, il y a deux relais, un 4x50 et un, je ne me rappelle plus, 6x50.
Quels ont été leurs résultats ?
Ils ont fini 16e sur 23 équipes. Ça correspond tout à fait à leur niveau, ça aurait été difficile de faire mieux parce que... Ouais, il y a un niveau très très élevé en natation.
Et comment ils sont arrivés jusqu'ici ?
Bah, un peu comme les filles du step, hein, ils ont fait la finale académique à Caen. Ils ont fini premier sur 14 équipes. Et du coup, bah, ils ont été qualifiés pour les finales nationales.
Okay. Est-ce que le lycée est habitué à participer à des compétitions nationales ?
Bah, on commence à l'être, ouais, mine de rien. L'année dernière, on était déjà allé aux France de natation et aux France de basket 3-3 à Ajaccio. Cette année, on en fait 2. Voilà, on verra l'année prochaine. On espère en faire encore, hein, mais c'est vrai que c'est des bonnes habitudes à prendre. Hein.
Et comment vous expliquez cette régularité depuis un petit moment ?
Eh bien là, on a une vague de bons sportifs hein, qui ont été là. Les filles du step, là, ça fait depuis la 6e, hein, Lila, que... Donc elles commencent à avoir un bon niveau. Les basketteuses l'année prochaine, c'était un petit coup de poker, mais l'année dernière, pardon, c'était un petit coup de poker, mais voilà, c'est passé. Et les nageurs aussi, hein, ce sont des beaucoup des nageurs en club, qui ont quand même un niveau assez élevé. Donc l'année prochaine, on espère réitérer au moins le step. Et puis après, bienvenue à tous les sportifs. Voilà, si vous vous sentez d'attaque, nous, on est toujours partant pour accompagner nos élèves.
Et comment vous faites le choix des disciplines ?
On ne fait pas de choix, nous, en fait. Hein. C'est, le choix, il vient des élèves. Là, par exemple, nous, on n'est pas du tout spécialiste step. C'est pour ça que les filles, elles se sont bien débrouillées toutes seules. C'est les élèves qui viennent nous voir, qui nous disent, bah, nous, on aimerait monter une équipe de tel sport. Et puis, en avant. Mais nous, on ne fait pas de choix. Hein. C'est, faut que ce soit les élèves qui soient motivés avant tout.
On a vu le côté sportif, mais du côté organisation, comment ça se passe ? Qui a accompagné les élèves ? Comment vous les avez hébergés ? Comment vous avez financé ce projet-là ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, en fait, au niveau de l'organisation, qui accompagne, ça dépend un petit peu de nos affinités, on va dire. Hein. Après, on essaye de faire en sorte que tout le monde... Tous les collègues participent à ça. Au niveau de l'organisation, en fait, c'est la ville qui reçoit les championnats de France, qui organise tout ce qui est logement. Nous, on a bien évidemment à payer une participation pour l'hébergement et la nourriture par élève. Ça s'élève en général à autour de 55 euros par élève par jour. En général, ça dure 2 jours. Donc voilà, c'est un budget. Il faut ensuite qu'il y ait aussi le transport. Cette année, on a mis en place 2 cagnottes Litchi qui ont très bien marché. Les steppeuses, vous avez eu en plus des donateurs professionnels. Hein, donc du coup, finalement, cette année, on est quand même parti sur 2 championnats à Périgueux et à Sète. C'est quand même pas la porte à côté. Et on ne s'est pas mis dans le rouge financièrement parce que tous les élèves se sont aussi mobilisés pour que ça... ça soit pas trop, trop cher. Les familles participent aussi. Financièrement, donc voilà, mais c'est quand même des gros budgets.
Enfin, dernière question, quel est votre groupe préféré entre le step et la natation ?
Oh, mais j'ai pas de préférence, moi. Moi, j'ai adoré participer aux deux. Après, bah, le step, c'était de la découverte. Hein, je connaissais pas du tout, donc ça avait ce petit côté de découverte. La natation, c'est bien, voilà, c'est du basique, on va dire, donc. Donc voilà, l'année dernière, j'ai découvert le basket 3-3, cette année, le step, l'année prochaine, je sais pas. Qu'est-ce que vous allez nous faire, vous, les gars, l'année prochaine ?
Oula, ça on sait pas.
Et tire de précision par Madou.
Comment ça ?
Est-ce que vous pouvez nous raconter la meilleure anecdote de ce séjour ?
Chacune.
Chacune.
Tu veux une petite anecdote ? Vas-y, Lila, moi, je sais pas.
Bah, je sais pas trop. Est-ce que je peux peut-être parler du prix
Ah oui, t'as raison.
Oui. Alors pendant le championnat à Périgueux, ils avaient organisé tout plein d'activités et en fait tu pouvais récolter un nombre de points. En fait, le championnat était basé sur le thème de la préhistoire parce que Périgueux c'est une ville qui est un peu spécialisée dans la préhistoire. Du coup, ouais, l'archéologie jolie. Oui. Et en fait, ils avaient mis en place plein d'activités où on pouvait récolter un certain nombre de points. Et à la fin, ils additionnaient tous les points de ces activités et ils offraient un trophée réalisé par des élèves d'un lycée à l'équipe gagnante. Et on a gagné ce trophée, qui était donc le trophée de la préhistoire. Il est dans le bureau de l'AS,
ouais,
il me semble.
Radio Zone 61, la radio des lycéens.
Radio Zone 61. Radio Zone 61, la radio des lycéens.